bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission de Lecture en tête à tête, en partenariat avec l'association Lecture en tête. Pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Damien Galisson pour une discussion autour de son premier roman, La Dragonne et le Drôle.
Bonjour.
Bonjour. Donc ce roman est paru il y a un an, quasi, en mars oui. 2022, aux éditions Sarbacane.
C'est ça.
Pour moi, ce roman, je le définirais comme une invitation au voyage, au cœur d'îles flottant dans l'espace, une immersion dans un monde où se côtoient le sombre et le beau, un monde sans foi ni loi, mais illuminé par la poésie. Voilà, c'est une grande épopée écrite en vers libre. Oui. Est-ce que cette définition te convient?
Moi, ça me convient très bien. Alors, épopée, peut-être pas, parce que finalement, on est sur un roman un peu court. Hein. J'ai triché en mettant beaucoup d'espace entre les mots, d'où le vers libre. Mais oui, par contre, sur le côté sombre et lumineux, sans doute, puisque on a l'histoire d'un gamin qui est au milieu de mercenaires et qui vit quelque chose de relativement sombre et qui finalement va découvrir, je vais reprendre le mot lumineux, quelque chose de lumineux en se permettant de chanter par la rencontre avec un dragon. Donc, voilà. Une dragonne en l'occurrence.
Ouais. Voilà, une belle figure dans ce roman. C'est vrai qu'on a envie d'être avec elle, on a envie de la côtoyer aussi, ce personnage-là. Est-ce que du coup tu veux peut-être nous lire un extrait là?
Ah oui, on peut commencer par ça, ouais, très bien.
Dans l'ambiance là.
Alors, je ne spoil rien, mais on est au tout début du roman et finalement ça va être la rencontre entre le drôle et la dragonne. Donc on est pile dans le titre avec ce gamin qu'on envoie chercher du bois sec alors qu'il pleut. Donc c'est le chapitre 4. Gamin, j'ouvre un œil sommeilleux. C'est Tanner qui me parle. Oh le drôle, tu les as trouvés où les bûches là? L'air glacial, il fait à peine jour. Une lueur diffuse enveloppe la tente. Tanner me dit quelque chose que je ne comprends pas et je réalise que le martèlement de l'averse avale le son de sa voix. Je me redresse. Chef souffle sur les braises qui ont rendu l'âme plus tôt dans la nuit. Tanner désigne les maigres tas de bois que j'ai apportés la veille, des branchettes humides. T'as pas dû aller très loin. Bah, il faisait nuit. Chef secoue la tête, il se tourne vers moi, l'œil terne. « Va !»« Oui, chef !» En m'extrayant de la couverture de laine, je suis immédiatement empoigné par le froid. L'air humide et glacé s'accroche à ma peau, j'enfile péniblement mes bottes, je passe la capeline mouillée. Rodi, à genoux, graisse une lanière de cuir, je cherche son regard, je ne sais pas pourquoi. Je suis le seul à sortir, j'ai compris. Pas un reste de viande, j'irai le ventre vide. « Eh, le drôle, chef ! Du bois sec !» Je suis seul, dehors, le cheval ne bronche pas, même son souffle est froid, tout est froid. Je cligne les yeux pour me réveiller. Du bois sec, sauf qu'il pleut. Il pleut depuis 2 jours, même la plus grosse branche, le feuillage le plus dense est saturé de pluie. C'est une guerre gagnée par les grosses gouttes, lourdes, froides, poisseuses, qui forment des flaques sur le chapeau, qui cheminent vers le cou, dégorgent sur la broigne, visitent le gambison, abîment la tunique. Les hommes, eux, bricolent sous la toile, une toile épaisse, huilée, étanche. Je fraye dans les taillis, le froid me rentre dans le froc, frisson liquide, insidieux, sinueux. Mon corps ne réchauffe plus l'eau qui me coule dans le cou. Je dois me dépêcher. Chef ou Tanner va grogner, m'empoigner, se venger de la pluie par une grande gifle sur mon visage de môme insupportable, se venger des choses détrempées par un vilain coup de pied qui me mettra par terre. Il me faut du bois sec, mais rien, rien, rien n'est sec. Je soulève des branches poisseuses, brasse des lits de feuilles trempées, pour peut-être trouver, qui sait, un rameau épargné. L'île à côté me paraît plus grande, plus boisée, et j'aperçois ce qui semble ici être une falaise, un abri. Je longe prudemment la bordure escarpée, tentant d'apercevoir à travers le voile pluvieux un passage ou un pont entre deux îles. Je me méfie du bord, la terre se fait glissante, et je sais la malice du vide. Je sais comme il a faim, je ne serai pas le premier imbécile à faire une chute maladroite un jour de grande averse. J'ai déjà vu des hommes tomber, être happés par les vents, leurs cris qui s'atténuent, tomber à jamais, jusqu'à n'être plus rien, je tremble à cette idée. On dit que quand on chute, les enfers vous digèrent. Si j'osais, je chanterais pour me donner du courage. Je n'oserais plus jamais faire vibrer mes cordes vocales. Mais chanter en silence ? Sans ouvrir la bouche, j'entame une chanson, la complainte des rives, où l'on compte les malheurs d'un pauvre naufragé condamné à tourner sans découvrir de pont. Ah ! En voici un pourtant, je m'approche joyeux, le pont de pierre usé rejoint les deux terres où l'écart est moins grand. Prudent attentif, je m'écarte pour jauger la solidité de l'ouvrage, grosse pierre de taille, contrefort qui descend bas contre la roche, cela semble solide. M'avançant, je défie le vide d'un glavio insolent qui se mêle au déluge. La pluie me bat le dos alors que je traverse. Le pied mal assuré sur les pavés glissants, je compte 12 pas. Ça y est, je suis passé. Je lève le nez et, tout de suite, je la vois, la grotte. Tirant sur ma capuche, j'avance plein d'espoir. Elle se dévoile à mon regard à mesure que j'approche. L'entrée de la cavité est relativement haute. Je pourrais m'y abriter. Du bois mort dans l'entrée, protégé de la pluie, des branches sèches, bois sec, sec. La victoire me fait battre le cœur, me monte le sang aux joues. Je vois déjà le sourire de Tanner, le respect de chef, et Roddy qui ne dit rien, mais qui pense que je suis un bon apprenti, qui s'est trouvé du bois sec sous la pluie. D'un palais, je m'abrite, j'aimerais crier de joie, je reste vigilant. La pluie me cache l'odeur de l'ours, du loup, de l'ogre, qui peut-être se terre dans le trou de cette île, l'entaille de sa roche, attendant qu'un mioche, recherchant des brindilles, approche sa trombine. J'avance dans la grotte, attentif au danger. Je sors mon couteau là, à peine un bout de lame. J'ai laissé la longue dague cachée au creux des fontes, plutôt être avalée par un ogre ventru que de reposer la main sur cette arme maudite. La grotte, comme une grande bouche, ouverte sur les bois, criant sa rage froide, prête à claquer ses dents. Ça y est, je suis dedans. Une cavité béante dans la pierre, une blessure, comme si un géant avait planté un pieu et l'avait retiré. Le trou semble profond. Je me demande s'il est possible qu'il traverse l'île, et si par-dessous, plus loin, on voit le vide. Tout de même, j'avance, tout môme que je suis, petit pleutre poltron, mais piqué par une curiosité qui dépasse mes peurs. J'aimerais que la lame, bien serrée dans mon poing, me donne à cet instant la force d'un guerrier. Une foulée de pluie, je suis dans la gueule de pierre qui va se refermer sur moi ? Non. Même si c'est profond, il n'y a rien de plus. Ma peur s'en va. Je repousse ma capuche. De retour dans l'entrée, j'entasse et je fagote le bois sec sur mon dos, protégé par ma tunique. C'est lourd, mais je suis fort. Un regard pour le déluge dehors, je ressors de la grotte, lourd de mon butin, un sourire en coin. Une enjambée à l'extérieur et la pluie me rappelle à son acharnement. Je pivote pour sonder une dernière fois les ombres de la grotte. Boum. Un coup. Derrière moi, dehors. Si fort que mes jambes vacillent. Un boum colossal qui me compresse les poumons une seule fois, et si fort que je ne sais pas si je pourrais respirer de nouveau. Le sol tremble, je me retiens, l'île a pris une secousse. Un arbre tombe, long chêne déraciné, un craquement, et sa cime vient me fouetter les pieds. Je me retourne, un dragon colossal s'est écrasé dans la forêt.
Voilà, surgit un des personnages principaux du roman.
Oui.
Voilà, et la rencontre qui va marquer le drôle.
Oui, c'est ce qu'on appelle classiquement l'événement déclencheur hein, dans un roman. Voilà, c'est ce personnage qui surgit et qui va tout changer dans la vie de ce gamin. Voilà.
Et à t'entendre, là, moi, j'avais encore des images qui surgissent. Les images d'un monde très rude, d'un monde végétal, minéral... On a entendu, là, on entend la roche, on entend la pierre, on entend les arbres qui ploient, on entend les racines qui bougent. Il y a vraiment ce côté paysage, là, que tu as créé, paysage imaginaire. Mais est-ce que, dans ta tête, tu t'es inspiré d'une géographie connue ? Est-ce que ouais, tu t'es dit ouais, ça ressemble à des pays du Nord ou plus du Sud
En fait, j'avais très en tête au moment d'écrire, au moment où j'ai fait le choix que finalement ce soit des îles, parce que c'était pas le cas au début. Le premier vers que j'ai écrit là-dessus, je savais que j'étais dans un monde médiéval, je savais que je voulais très peu de technologie, on était vraiment dans les bois, dans la terre, mais j'avais pas encore l'idée que les îles étaient flottantes. C'est arrivé un petit peu plus tard, Et en me posant la question de qu'est-ce qui fait que ce monde est différent d'un autre monde de fantasy, j'ai pensé à ces îles et j'ai fait le lien plus tard d'un dessin animé que j'ai regardé très longtemps avec mes enfants, que je continue à regarder de temps en temps, qui s'appelle Chasseurs de dragons. Et pour moi, c'est vraiment une référence. J'adore ce dessin animé. Les aventures de Guizhou et Lian Chu me parlent beaucoup parce qu'ils sont très drôles et qu'à la fois, on est dans quelque chose où il y a des engins volants. Et on n'est pas dans du steampunk. Je suis pas très attiré. Alors en tant que lecteur, oui, mais j'avais pas envie d'écrire sur du steampunk. Je voulais vraiment un univers très médiéval, très terre à terre, où vraiment on est les pieds dans la boue de pure nature en fait. Et je pense que les lectures de gens comme Jean-Philippe Jaworski avec Gagner la guerre, avec des passages où on est en pleine nature longtemps, perdu dans les combes, où on ne sait pas trop où on est complètement perdu, où je pense à Patrick Dudeney avec l'enfant de poussière, où vraiment on a de la nature. Moi j'avais besoin de ça au moment d'écrire ce livre, de cette espèce de chose qui soit très, très liée aux sensations du corps en fait. À ce que ça fait de toucher la pierre, à ce que ça fait d'avoir des gouttes qui tombent dans les arbres. Et voilà.
Oui, ça, c'est vrai qu'on le ressent vraiment bien à travers ton écriture, cet aspect-là, où la nature, elle est là.
C'est ça.
Elle devient présente.
Oui, oui.
Ouais. Et donc, tu parlais du côté médiéval. Est-ce que dans la personnalité de tes personnages, quand tu as construit un peu tes personnages, donc on a quatre mercenaires, essentiellement, la chef, Tanner, Roddy et le drôle, qui est effectivement un gamin un peu différent, mais est-ce que quand tu as construit ces personnalités, pareil, tu t'es dit, il y a des codes de que je veux prendre de la fantasy ou alors tu t'es laissé une totale liberté, tu t'es laissé embarquer par tes personnages.
J'ai la sensation de me laisser une liberté et à la fois je suis tellement imprégné de fantasy que évidemment j'ai des codes, j'ai des personnages existants en tête, j'ai des personnages comme ça, notamment en BD. Je pense que Tanner ressemble un petit peu au guerrier qu'on retrouve dans la quête de l'oiseau du temps, par exemple, de l'oiselle. Il est roux et je pense à ce personnage qu'on croise chez les Sauvageons dans Game of Thrones, dans la série. Et à la fois, j'avais besoin que ce soit pas juste des personnages de fiction, j'avais besoin qu'ils soient... ils ont un peu vécu en moi, c'est pour ça que je pense que j'ai réussi à les camper, c'est parce que Tanner, pour moi, alors c'est vraiment un sale type, mais c'est un type qui vit dans son monde, qui est pas à côté de son monde, c'est un guerrier, il fait exactement, il est à sa place de guerrier, et quand il tape un mioche, il est juste exactement dans ce que fait un guerrier à cette époque-là, dans ce monde-là, et donc il ne se sent pas injuste en fait. Et j'aime bien me dire que le pire des salauds, sans doute, c'est justification. Voilà. J'ai un personnage qui est arrivé bien plus tard, qui est le cuistot, avec son parler, que j'avais pas du tout imaginé, qui était pas dans le livre et qui a surgi au moment où le drôle est arrivé sur le navire. Et lui, physiquement, c'est très drôle parce que c'est la première fois que j'ai eu ça en écrivant. Vraiment, il était près de moi. Je l'avais physiquement, je le voyais, quoi. Je connaissais sa démarche et finalement cette façon de parler qu'il a, qui est un peu gouailleuse, un peu, je me suis éclaté à le faire parler et vraiment il était avec moi, quoi. J'ai vraiment vraiment ressenti. Ouais.
Oui, puis c'est un personnage qui est attachant, le cuisinier quelque part.
Enfin, je pense que c'est le seul adulte bienveillant dans cette histoire.
Voilà, ouais.
Quelque part. Ouais.
Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'on a envie d'être un peu à son contact pour souffler.
Oui, pour puis ses... il fait à manger en fait. Faire à manger, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est nourrir les autres, c'est leur apporter quelque chose. C'est pas un guerrier, c'est voilà.
Ouais. Mm-hmm. Et donc, tout à l'heure, je disais, voilà, on a des images en lisant ton livre, on a la musique qui arrive avec le drôle, et avec le cuisinier, on a presque les saveurs aussi.
Oui, oui, oui.
En fait, parce que du coup, il y a une tonalité culinaire qui arrive comme ça, qui débarque avec lui. Tu la définirais comment, toi, ces saveurs-là que tu mets avec le cuisinier
Je ne sais pas, on est sur des choses un peu simple en fait, tout comme tout à l'heure on parlait des pieds dans la boue ou de la sensation de l'eau, et ben finalement préparer une pâte à pain, c'est des choses basiques, mais voilà, quand on dit une pâte à pain en train de gonfler, tout le monde en a l'odeur dans le nez en fait. On sait de quoi il s'agit, de la farine qui tombe, qu'on étale, on sait de quoi il s'agit, ou du feu qui brûle dans l'âtre, voilà, on sait, c'est des choses avec la fantaisie où on est vraiment sur des basiques, mais sur des basiques un peu universelles qui parlent à tout le monde. On sait ce que ça fait, l'eau qui coule, quoi. C'est bête comme ça à dire, mais voilà, on est sur des choses de sensation. Ouais.
Ouais. Ouais, des valeurs simples.
Voilà, des valeurs simples.
Et donc, pour revenir à la musique qui rythme le livre, on l'a à travers le drôle, puisque lui, voilà, c'est le poète, il aime chanter, il aime faire des rimes. Et on peut l'avoir aussi, puisque dans la collection Exprime, dans les premières pages, il y a la bande-son, il y a une playlist,
oui.
En fait.
Oui.
Donc ça, c'est ta playlist. Et
c'est quelque chose de particulier de chez Sarbacane, mais qui m'a fait énormément plaisir, parce que oui, en effet, j'écris en musique. Et j'écris vraiment avec ces titres-là dans les oreilles pendant l'écriture du... j'allais dire l'écriture de l'album, oui. Pendant l'écriture du livre. Et oui, c'était ces morceaux-là étaient là avec moi et ils ont rythmé, ils m'ont suivi, ils m'ont accompagné pendant toute l'écriture et très certainement ils donnent un rythme. Voilà, qu'une autre playlist, le bouquin n'aurait pas été pareil,
ouais,
je pense.
Ouais, ouais. Ils t'ont nourri ces titres.
Complètement.
Et donc on peut faire du coup une transition. Là, tu as choisi deux chansons. La première, c'est un titre de Tool.
Oui, alors Tool, c'est un groupe que je suis depuis très longtemps. Nous qui sommes très vieux et qui n'avions pas Internet quand nous étions adolescents, fallait que je me lève le soir pour mettre ma cassette et enregistrer l'émission Best of Trash sur M6, qui nous passait des titres. On a découvert à l'époque, dans les années 94-95, des groupes comme Deftones et comme Tool, qui avaient... son premier titre, Sober, qui était fait tout en stop motion, qui était vraiment très sombre et tout en ambiance. Ça reste du métal et à la fois, on est plus sur de l'ambiance, de l'atmosphère. Donc c'est Tool, c'est le dernier album.
Et le titre, c'est...
Oh, je l'ai plus en tête.
Invincible, on le prononce à l'anglaise.
Ah, on peut le prononcer à l'anglaise.
Ou à la française, Invincible.
Invincible.
Invincible. Long in tooth and soul. Longing for another wind, lurching to the fray, weapon out and belly in. Warrior, struggling to remain consequential. We'll ce qu'on vient d'entendre, ça pourrait être l'ambiance sonore de La Dragonne et du Drôle.
Ouais, parce que...
À certains moments.
Ce que j'apprécie chez Tool, en termes d'écriture, c'est que vraiment on est sur des rythmiques décalées. Et c'est un peu le jeu de l'écriture que j'ai eu. C'est écrit très en alexandrin. À la base, sur le premier jet, et après, il y a cette idée de casser, de rythmer la phrase, d'appuyer sur les mots, etc. Et Tool, c'est un groupe que je trouve intéressant dans la rythmique, parce que c'est des gens qui s'amusent même à faire des mathématiques, à dire sur un riff, sur un bout de morceau, de dire on fait 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et ils ont en plus cette partie particularité d'avoir le côté voilà, ombre et lumière quelque part, de quelque chose très métal, très rythmique, parfois violent, et puis cette voix qui peut être hyper douce, donc hyper douce et complètement dans l'émotion, donc oui je pense que ça ressemble un peu à La Dragonne et le Drôle.
Et pour l'écriture en vers libre, tu t'es dit dès le départ voilà, je vais faire un roman de fantasy, ça sera en vers libre, ou c'est venu plus tard
Non, en fait, c'est venu plus tard. Moi, je chantais dans un groupe de métal depuis très longtemps, un groupe qui s'appelait Tannen, de hardcore, mais je chantais en français, donc j'écrivais quelque part de la poésie en français, et j'écrivais à côté des histoires, et j'ai jamais fait le lien, les fils se sont jamais touchés sur ces deux écritures-là. Pour moi, c'était vraiment deux univers qui n'ont rien à voir. Comme je fais, voilà, si je faisais du tennis et du basket, je mélange pas la balle. C'est voilà. Et assez bêtement, hein, ça, assez naïvement sans doute. Et c'est le fait d'avoir fait le concours Émergence de la Charte des auteurs illustrateurs jeunesse. Il y a eu une rencontre avec des éditeurs et une éditrice chez Rajo m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un qui fasse du vers libre. Et moi, je connaissais pas le vers libre. Alors après avoir recherché plus tard, oui, je lisais du vers libre, mais sans savoir, je suis un peu Monsieur Jourdain, tu vois, sans savoir que c'en était. Et je me suis dit, ok, bah je tente le coup en fait. Et évidemment, ça a été de la fantasy, parce qu'il y a bien que ça qui m'intéresse. Au moins, un minimum de la littérature de l'imaginaire, je lis que ça. Donc évidemment, ça allait être ça. Et puis, par contre, j'étais pas très libre sur mon premier jet, puisque vraiment, j'ai fait de l'alexandrin. C'est après, chez Sarbacane, où ils m'ont dit, bon, voilà, lis Clémentine Beauvais, le maître. Voilà, Yoda.
La référence.
La référence. Mais oui, j'ai vraiment une leçon d'apprentissage en lisant Songe à la douceur. Comment on met en avant un mot. J'en ai peut-être fait beaucoup, parce que Julia chez Sarbacane m'a dit ok, il y a des moments où on va revenir un peu plus à la ligne tranquillement, et c'est un dosage un peu subtil de se dire il y a des moments où je mets un mot très fort en avant parce qu'il est marquant, parce que c'est un moment où ce qui traverse le personnage est frappant, donc je peux frapper ce mot plus fort sur la page, un peu plus, je laisse du vide autour, et puis des moments où ça coule, on est sur du roman un peu traditionnel, les vers, la partie poésie est encore là, mais par contre on la met moins en exergue, et c'est finalement plus un jeu d'illustrateur comme on le ferait dans une BD, où voilà, on met une case plus grande parce que ce qui se passe est plus long, et on met plein de petites cases les unes à la suite des autres parce qu'il se passe plein d'actions, on est dans One Piece quoi. Voilà. Et donc ça c'est un jeu, c'est quelque chose que j'avais pas fait avant et que j'ai appris à ce moment-là. Ouais.
Et on le sent ça aussi à travers la mise en page, hein, on le voit en fait, ce que tu dis là, on le voit à travers la mise en page des mots, à travers aussi... Ouais, les dessins des îles, ça transporte aussi.
Oui. Et puis il y a des passages un peu étranges, par exemple quand c'est la voix de la dragonne qui parle. Là on a presque un dessin sinueux parce que c'est sa pensée à elle, et que sans doute la pensée d'un animal n'est pas celle d'un humain, et donc on a quelque chose d'un peu différent, ou des choses un peu graphiques comme ce mot tombé là, quand je ne dis pas qui tombe, et voilà, on a des choses comme ça graphiques, et je pense qu'on peut même aller beaucoup plus loin, hein. J'ai vu des bouquins chez Toussaint Louverture où on s'est amusé à écrire dans les coins, dans tous les sens, ouais. Des choses assez folles.
Ça, je pense que graphiquement, on peut les... C'était ton envie, ça, ou c'est plus l'éditeur qui, à un moment donné, t'a dirigé sur cette mise en page?
Ouais, c'est l'éditeur qui m'a dirigé sur cette mise en page, voilà. Vraiment, en me disant, lis Clémentine Beauvais pour voir jusqu'où tu peux aller. Parce que j'y étais allé sans doute un peu basiquement, quoi. Un peu à la ligne, quelques mots qui sortent, mais pas jusque-là, en fait. Ouais.
Et ce roman de fantasy... on sait qu'en ce moment, il y a plein d'adaptations au cinéma de romans. Est-ce que tu le verrais, toi, au cinéma et est-ce que tu aurais une idée d'un réalisateur comme ça
Je ne sais pas, soyons sobres, Peter Jackson. Non, je plaisante. non, au cinéma, j'ai du mal à me l'imaginer. Bon, sachant que je me mets à la place d'un producteur, en fait, je vois le prix du truc numérique avec les îles qui volent. Waouh, non, c'est un peu cher. Non, j'imagine ouais, une adaptation BD, ça peut être faite, ou voire dessin animé, des choses où on peut se permettre. Voilà. Voilà, sur le papier, dire la tour Eiffel explose, c'est facile en dessin, en film c'est un peu plus relou.
Avoir un gros budget.
Un gros budget, ouais. C'est ça.
Très bien, bah merci. On va pouvoir peut-être clôturer cette petite conversation. Une dernière musique.
Oui, bah là, en fait, quand on m'a dit qu'il fallait choisir un morceau, je me suis dit, y a un morceau qui, pour moi, correspond à un album de Nostromo qui s'appelle Hystéron Protéon, qui est un album. Donc, c'est un groupe suisse de hardcore vraiment très très violent. Pour ceux qui l'ont vu sur scène, ça blaste tout le temps, c'est très dur et c'est tout le temps en distorsion. Ils ont été invités sur un festival à jouer en acoustique et ils en ont fait un album. Et en fait, c'est assez étonnant, ces guitares au son relativement cristallin, etc., tout en gardant les mêmes morceaux avec les mêmes rythmiques et avec un chanteur qui hurle. Et pour moi, ça ressemble un peu à quelque chose de très médiéval, qui correspondrait à l'état d'esprit d'un chef, par exemple. Voilà, ça reste médiéval, on est sur de l'acoustique, et en même temps, ça... Voilà.
Ça envoie.
C'est Nostromo.
Merci Damien.
Merci beaucoup. Fuck you all, fuck you all. Got a problem, just my life.